J'ai le grand congolais avec Alain Hirong à la présentation.
Bonsoir, célébration du 50e de l'indépendance de la RDC, quel bilan et quelle perspective sur le plan sécuritaire. Nos invités dans cette émission sont Mohamed Boulé, général à la retraite, actuellement député national et président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, également ancien vice-ministre de la défense. Bonsoir, honorable.
Bonsoir.
André Alain Atundu Diongo, ancien chef des services de renseignement du Zaïre et ancien ambassadeur du Zaïre au Rwanda. Bonsoir, monsieur Atundu.
Bonsoir.
Professeur Moïse Chiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Il est en ligne. Bonsoir, professeur. Voilà, nous allons retrouver le professeur Moïla tout à l'heure, mais vos réactions, nous les avons déjà. Jonathan de Bukavu Sud Kivu, malgré toutes les opérations militaires, le bilan sécuritaire de 50 ans d'indépendance de la RDC est très triste. Le pays est sans système de défense ou le recours aux armées étrangères. Philippe Mastika de Kolisio Katanga, 50 ans après l'accession de notre pays à l'indépendance, notre armée est toujours en pleine régression malgré les réformes envisagées par le gouvernement. Il serait mieux d'améliorer les conditions sociales de nos militaires et policiers par l'augmentation de leurs soldes. Merci de nous suivre. À Kanyabayonga, dans la province du Nord Kivu, sur 96.0 FM et partout au monde sur RadioCafé.net. Nous sommes jeudi 24 juin 2010. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Vous le savez, la RDC célèbre ses 50 ans d'indépendance le 30 juin 2010. Le pays a connu une série d'événements sur le plan de la défense et de la sécurité qui ont influencé son développement. 50 ans après, quel bilan peut-on dresser sur le plan de la défense et de la sécurité? Honorable Mohamed Boulé, je rappelle que vous êtes général à la retraite, député national et pas président, mais rapporteur de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Quel est votre bilan à vous sur le plan sécuritaire? Parce qu'on se rappelle déjà que au lendemain même de l'indépendance, déjà quelques jours après, c'était la mutinerie de la force publique.
Oui, vous avez raison sur le plan sécuritaire, parce que on ne peut pas parler de sécurité tant qu'il y a, si et là, des zones de foyer de tension, soit investies par des groupes armés étrangers, et aussi à l'intérieur par certains éléments qui s'évertuent à créer leur mouvement dans leur contrée. Cela pose problème parce que il faut rétablir l'ordre et la paix pour permettre le paisible des citoyens à vaincre leurs préoccupations. Or, à l'instant, nous avons de sérieux problèmes dans la province orientale, donc les Ouélés, le district de Bas-Ouélé et du Haut-Ouélé, et également en Ituri, on a des problèmes avec les groupes armés nationaux. Et si on veut parler du Nord et du Sud Kivu, nous connaissons que là aussi ça pose problème. Et tout cela, c'est l'armée qui devrait nécessairement, avec les moyens à mettre à sa disposition pour lui permettre d'avoir une capacité pour réagir et neutraliser ces groupes armés, et ce n'est pas le cas. Vous avez cité qu'il y a eu des rébellions, évidemment, depuis 1960. À nos jours, nous avons connu plusieurs étapes des rébellions. La première rébellion, le liste est Ousimba de 64. À ce moment-là, pour établir l'ordre, il fallait également l'appui extérieur et il fallait alors monter en puissance l'armée parce que, à l'indépendance, nous connaissons que nous n'étions pas fortement armés parce qu'il y avait des unités campées et des unités territoriales nécessairement qui étaient les forces de gendarmerie. Et petit à petit, lorsque on a neutralisé ce rébellion de 64, on a pu, grâce à la formation des différentes unités dans nos centres d'entraînement, qui tournent particulièrement, qui a servi comme préset pour la formation des éléments, on a commencé petit à petit à monter les forces armées et à donner d'autres structures adaptées aux circonstances politiques. Donc on est passé des groupements avec plusieurs mutations des régions militaires, et parallèlement aussi, on a doublé avec les forces de l'ordre et les gendarmes qui étaient aux côtés des forces des patentiers. Mais c'est là aussi, nous avons connu d'autres guerres qui ont déstabilisé le pays, ce qu'on a appelé la guerre des 80 jours, la guerre des 6 jours, la guerre des Mouba, et tout cela n'a pas permis aux forces armées de se réorganiser correctement, et aussi de mettre un accent particulier sur les conditions sociales. Parce que un chef, une mission, des moyens, et très souvent, on a un peu pas tellement servi, parce qu'entretenir une armée, ça nécessite de commettre beaucoup de moyens, pour d'abord en termes de formation continue, et surtout des moyens pour lui permettre d'être prêt à répondre.
Or, si alors, permettez, honorable Boulet, que je voudrais passer au niveau, si on devrait tirer en une phrase, que peut-on dire de ce bilan sur le plan sécuritaire, 50 ans après?
Sur le plan sécuritaire, 50 ans après, le bilan n'est pas du tout bon. Nous devons reconnaître. Néanmoins, il y a des efforts qui sont faits, parce que si le bilan était bon, ça veut dire que d'ici là, nous allons fêter le 50 mai, il faudrait que tout le monde, partout comme en 1960, puisse fêter de la même manière, jusqu'aux entités des bases décentralisées, c'est-à-dire le chef et le secteur, ce qui n'est pas le cas.
Alors les efforts, ça fera partie de notre deuxième, de la deuxième partie de cette émission. André-Alain Atundu-Liongo, vous êtes ancien chef du service de renseignement du Zaïre et ancien ambassadeur du Zaïre au Rwanda. Nous parlions de la première période, pratiquement, si on prend de la période entre 60 et 68 ou 70, il y a une série d'événements, j'ai parlé tantôt de la mutinerie de la force publique, ça c'est du 5 au 13 juillet 60, le 11 juillet 60 c'est la sécession au Katanga, 14 juillet 60 rupture avec la Belgique et appel à l'ONU, le 16 juillet 60 c'est l'intervention des casques bleus, le 8 août 60 sécession du Sud Kasaï, ainsi de suite, il y a beaucoup d'événements. Que peut-on dire, André-Alain Atundu, de l'héritage colonial sur le plan sécuritaire?
L'héritage colonial sur le plan sécuritaire, je peux dire qu'on n'en a pas eu. Parce que, comme sur le plan politique, notre administration congolaise n'a pas été préparée à assumer la sécurité de l'État, des citoyens, et à rechercher les événements qui pourraient causer un préjudice généralement quelconque au pays. Et donc, nous sommes débrouillés par essai et erreur, et le problème qui s'est posé en ce moment-là, c'est que les services de renseignement, en réalité, dépendaient des politiques, des partis politiques qui avaient gagné, en l'occurrence les MLP, etc. Et ça avait une connotation de police politique pour le règlement des comptes. Alors, de là, on a fait un effort, je crois à partir de 65, au coup d'état de Mobutu, il a essayé de normaliser notre service en formant des experts, en intégrant des universitaires et en éliminant les militaires qui donnaient l'impression qu'il s'agissait d'un service militaire chargé d'opprimer ou d'être un peu comme le bras séculier de l'armée. Donc, le président Mobutu a fait cet effort et ça a continué jusque quand les événements ont basculé à l'avènement de l'APL, eh bien, les services ont de nouveau défendu du chef de l'État, de pouvoir politique d'alors, disons, et je pourrais même dire qu'il était un peu marginalisé, parce que l'APL est venu avec son service et ne se fiait pas au service qu'il avait trouvé sur place, et donc le service était marginalisé. C'est seulement à partir du dialogue intercongolais que les services ont commencé de nouveau à investir et à jouer un rôle important, notamment à travers le conseil spécial, notamment évidemment en tant que service, comme tel, la nommée, la mère, etc. Et donc ça c'est... mais le bilan, je peux dire que s'il faut faire le bilan comme en termes comptables, le positif et le négatif, commençons par le positif. Le positif, c'est que les services de renseignement n'ont jamais cessé de servir le pouvoir dirigeant. Ils ont servi, pensez-vous, ils ont servi Mobutu, ils ont servi Musée, et ils servent Joseph Kabila. Donc ça, c'est le côté positif. Et l'autre côté, c'est que c'est un peu comme le temple de la nation, où quand tout le monde parlait de, par exemple, de l'administration des originaires, des suicides, de la fédération des provinces, mais au niveau des services, c'est un peu comme l'armée, on n'a jamais pensé à faire un service pour chaque province. Le service était là, le consommateur final de ces travaux, c'est le chef de l'État, et le service est toujours mis au service du chef de l'État. Alors, le côté négatif, c'est le contre-coup des changements politiques. À la Première République, avec le conflit Mobutu, Kakavubu, Lumumba, vraiment, ils étaient obligés de servir celui qui détenait la légitimité légale, si je puis ainsi m'exprimer. Donc, c'est au service de Mobutu, ils ont commencé, de Kakavubu, ils ont commencé à pourchasser, etc., etc. Alors, du temps de Mobutu, c'était facile, parce qu'il représentait l'État, et ce qui était contre lui, c'était contre l'État. Et donc, là, les services ont cessé, je veux dire, leur caractère administratif, nationaliste, pour être un service au service de quelqu'un, en l'occurrence Mobutu, mais avec des objectifs nationaux. Et aujourd'hui, cette problématique reste. Est-ce que les services sont au service de l'État ou de l'individu chef de l'État? Voilà. Professeur Moïla Kiyende, bonsoir, vous êtes en ligne.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Vous avez suivi, je pense, tour à tour l'honorable Mohamed Bouli ainsi que M. André-Alain Atundu. Professeur, quel est votre bilan par rapport sur le plan sécuritaire, hein, de la défense et de la sécurité?
Ben, il faut dire que, comme le général avait dit tout à l'heure, la question de l'armée, en premier, avant de parler de renseignement, c'est probablement l'une des vulnérabilités de la République démocratique du Congo depuis l'indépendance. Les militaires de l'armée, la création de l'ANC qui remplace la force publique, toutes les tentatives de remodelage pendant la première République jusqu'au coup d'État de président Mobutu, qui a essayé, avec le concours des partenaires extérieurs, de monter ce qui était devenu non seulement l'armée nationale congolaise renforcée jusqu'aux phases. Bien sûr, il faut reconnaître que durant toute cette période, nombre de congolais étaient envoyés dans des meilleures écoles militaires de par le monde. Et le retour sur la quête des années 69-70 de la majorité, sinon de la plupart de ces officiers, officiers supérieurs qui ont été formés, ça donnait le facture de ce qui a été l'armée, les forces armées zaïroises. Bien entendu, la problématique de la survie du régime de Mobutu, dès lors que le président Mobutu a choisi non plus de faire les cinq premières années que lui avait confié le haut commandement, qui se posait la question de comment rester le plus longtemps au pouvoir. À partir de là, l'équation a changé. Même l'armée qui a contribué à forger depuis la création de l'ANC était devenue pratiquement un phénomène tout à fait marginal dans la problématique de la survie du pouvoir, et on assistait pratiquement à au démantèlement, s'il faut utiliser le terme un peu abrupt, hein, du commandement tel qu'il a été institué, le limogeage des meilleurs de nos officiers supérieurs et cadres moyens, et les tentatives réelles ou supposées de coup d'État qui ont épuré l'armée s'il avait des forces vives, jusqu'à ce que l'émiettement et la dégradation qui s'en est suivie, et à l'entrée de la fidèle, quasiment, les forces armées d'Afrique avaient totalement disparu, même si le passé était encore pas qu'à un cas. Donc, lorsque la fidèle et Laurent Désir-Rapilla entrent à Kinshasa, quasiment, il n'y a plus été les forces armées d'Aïrois, c'était de prendre des compositions, sans commandement, etc. Donc, au début, il a été fait un effort pour constituer les forces congolaises, notamment depuis la fin de la transition, l'intervention de plusieurs partenaires pour former les brigades intégrées à partir des milices. Des MSP, du FCD Goma et des forces qui étaient encore au service du gouvernement de Laurent Désiré-Kabila. Évidemment, des efforts ont été entrepris, mais il faut bien reconnaître que ces efforts n'ont pas encore permis à la République démocratique du Congo d'avoir une force de défense et de sécurité dissuasive capable de faire face à des menaces extérieur d'assurer la qualité du territoire.
Professeur Moïla, voilà, je pense qu'on a perdu le professeur Moïla Tshiembé. La réalisation va tenter de le retrouver. Honorable Mohamed Boulé, André Alain Atundu, ainsi que le professeur Moïla l'ont pratiquement dit, vous-même d'ailleurs aussi, l'armée s'est formée presque sur le tas, par essais et erreurs, mais quelle est la période que l'on peut considérer comme la période glorieuse sur le plan sécuritaire? Honorable Boulé.
Oui, la période glorieuse sur le plan sécuritaire, je peux situer entre 1964, après la rébellion, après que la rébellion se soit neutralisée, par l'intégration et le début de formation des vraies unités combattantes, la création du centre d'entraînement de Kitona, qui avait également une école de cadres pour les sous-officiers, donc les sergents chefs de section, pour les chefs de peloton, pour le perfectionnement des autres cadres et pour la mise à niveau de ce qu'on a pris ici et là, et également par la création des centres d'entraînement pour les troupes d'infanterie très aguerries, commando à Kotakoli, et pourquoi pas, plus tard, les troupes parachutistes. En ce moment-là, on avait, parce que la République démocratique du Congo étant au centre de l'Afrique et que tout autour il y avait des pays dits satellites à l'Union soviétique, alors vous comprenez bien entre les deux superpuissances, il fallait à tout prix aider la République démocratique du Congo pour que pour garder jalousement contre la pénétration de ces éléments-là. Et c'est ce qui fait que, en ce moment-là, il y a eu beaucoup de formations à l'extérieur, comme l'a dit le professeur, dans les académies militaires, que ce soit en Europe, en Angleterre, et tout ça, pour ne pas citer la Belgique, l'Italie et les États-Unis. Et ces officiers qui sont rentrés au pays ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour l'encadrement et la formation. Mais au niveau des Mbazangungu, on avait des troupes blindées. Et c'est comme ça qu'à cette époque-là aussi, notre pays, par nos cadres militaires nationaux, ont donné beaucoup de formation à certains éléments armés de certains pays ici, que je ne me permettrai pas de citer, mais qui sont très bien connus. Mais s'il faut peut-être les citer, ça, parce que c'est notre histoire. Nous avons également formé des éléments commando pour les cadres. Et le Rwanda n'était pas exclu, le Togo, le Sénégal, pour ne citer que ça. Et je disais l'autre fois ici, au centre supérieur militaire, XN,
à l'école de commandement d'état-major. Des officiers supérieurs de l'armée américaine sont venus ici pour faire des formations avec leurs collègues congolais pour obtenir. Donc nous avions la fierté à ce moment-là d'avoir quand même de l'expertise, et cette expertise jusqu'à aujourd'hui existe. Mais seulement au stade actuel, il faut voir maintenant l'inversion, la pyramide et tout ça qui s'inverse. Il faut remplacer l'armée, il faut rajeunir. Il ne faut pas garder les gens plus de 30 ans, mais qui deviennent déjà fatigués aussi par le poids de l'âge, et donner la chance et tout ça aux autres. Mais pour cela, il faut qu'ils sortent honorablement pour pouvoir ça. Alors tout cela est à refaire.
André Alain Atondou, l'expertise, hein, nous l'avons, mais à quel moment la déchéance a-t-elle commencé à se faire ressentir au niveau de l'armée et des services de sécurité? Est-ce dans les années 90 avec la fin de la guerre froide ou est-ce avec l'arrivée de l'ASDEF?
Non, en réalité, c'est bien avant. Je parlerai au nom des services de renseignement. Pour le compte du service de renseignement, c'est, nous avons connu aussi notre temps de gloire, que je peux dire, c'est 75 à 85, à peu près, où vraiment les points de vue des services congolais étaient pris en considération. Et en cas de divergence, notamment avec les Américains, pour certaines appréciations, eh bien, le point de vue des Congolais n'était pas toujours battu en vrai. Je peux donner un cas. Lorsque le Zimbabwe se battait pour son indépendance, les Américains pensaient que Mgr Muzorewa serait probablement le président de la République. Eh bien, les services congolais ont dit qu'à nos analyses, la situation sur le terrain, nous pensons que ce sera Mugabe. Eh bien, en fin de compte, ben, il y a eu Mugabe qui est passé. Donc, il y a des témoins. Il y a, n'est-ce pas, M. Kema, comme je l'ai dit, ça fait partie de notre histoire, des gens qui peuvent témoigner. Et cette période a été marquée par des grands esprits dans les services, grâce à leur formation notamment. Oui, grâce à la formation, à l'intégration des universitaires et à la formation spécialisée. Vous connaissez M. Seki, M. Mokolo, M. Kema, pour ne citer que ces trois figures emblématiques de leur service. Et donc, en ce moment-là, nous étions vraiment, nous constituons un élément de la puissance politique de la République. C'est sans complexe qu'on se réunissait régulièrement avec les Israéliens, qu'on échangeait. On échangeait, n'est-ce pas, des évaluations des situations dans le monde, avec les Américains, avec les Marocains, etc. Donc, c'était en ce moment-là. Nous avons donc bénéficié, si vous voulez, de cette prospérité politique, où on avait qu'un seul chef, un seul consommateur, on savait qu'on faisait tout pour le président Mobutu. Tandis que, après, autour de 90, lorsqu'on ne savait plus exactement à quel commandait, qui commandait, eh bien, les services sont compatogés. Je peux vous donner un cas. Par les dispositions de la CNS, le président Mobutu ne pouvait plus nommer l'administrateur général du SNIC. Eh bien, c'était le ministre de la Défense, à l'occurrence, c'était l'amiral Mavoie. Et l'amiral Mavoie a nommé quelqu'un. On le désigne, mais ça devait être confirmé par le Premier ministre à l'époque, je crois que c'était Kéron. Eh bien, comme cette personne n'avait pas, on va dire, la confiance du Premier ministre Kéron, qui pensait que c'était l'homme de Mobutu, eh bien, cette personne-là n'est jamais parvenue à travailler et il a été, je dirais, limogé. Alors, à partir de ce moment-là, lorsqu'on ne sait plus à qui s'adressent les travaux, de qui recevoir les ordres, les services ont commencé à patauger, au point que un matin, le président Mobutu s'est réveillé avec les réfugiés rwandais à sa porte, à Guadeloupe, tout simplement parce que les services, au lieu de faire leur travail, en ce moment-là, ils étaient plus occupés à chercher qui les hommes politiques, n'est-ce pas, étaient le plus à même de garantir leur survie. Voilà. Alors, professeur Moïla, vous êtes en ligne?
Oui.
Voilà, je vous accorde la parole tout à l'heure après avoir suivi ce que pense le bilan que dressent certains Congolais interrogés par Radio Okapi. Nous allons les écouter s'exprimer au micro de nos collègues du réseau Okapi dans les provinces du Sud Kivu, la province orientale, le Nord Kivu et l'Équateur. On vous retrouve juste après, professeur.
Maître Jean-Paul Mboulumbu à Goma. Je note que le bilan est tout à fait négatif, parce que lorsqu'on essaie d'interroger l'histoire 50 ans après, on a constaté que la partie Est de la République est de ventre mou de l'insécurité dans la République. La plupart des conflits ont commencé dans la partie Est de la République. Cela prouve en suffisance que le gouvernement n'a pas su maîtriser les enjeux qui se trouvent à l'Est de la République, et les premières victimes, ce sont les populations du Nord Kivu.
Jean-Ferdinand, habitant au Kassigwa. Je suis un habitant de ville. Sur le plan sécuritaire, le climat est mitigé. Parce qu'au Vira, c'est une peau d'antique de toutes les guerres. Depuis 1960, au Vira a été victime de beaucoup de guerres. La guerre moyenne se passe par au Vira. Et après viendra la guerre de la FNL, l'URCD. Aujourd'hui, on a affaire à des groupes armés qui opèrent encore à l'intérieur de Vira. Et donc, pour nous, la sécurité règne au Vira malgré la toute accalmie qu'on observe.
Monsieur Nicolas Issofale, j'interviens de Mbandaka. Les bilans sur le plan sécuritaire 50 ans après est globalement négatif. Pendant la Deuxième République, au début, il y avait quand même une certaine vision de bien protéger les gens.
Pascal Bachombe, j'habite tout à l'année. Pendant 50 ans de cette indépendance, le bilan est mitigé. Des 60 à 65, il y avait une circulation de personnes et de leurs biens sans que quelqu'un ne soit arrêté pour qu'il soit demandé exactement la carte. Lorsque Mobutu a pris le pouvoir, en 65, c'est là où on a senti que vraiment la population était sacrifiée. J'habite la ville de Bouta, c'est un bilan très mitigé. Pour nous ici, dans les bases, c'était à peine que l'appareil judiciaire s'est installé. Et il faut voir avec combien de personnel.
Professeur Moïla, vous êtes toujours avec nous.
Oui, je suis avec vous.
Voilà, professeur, peut-on considérer que les rébellions autrefois matées dans les années 60 sont simplement restées comme des volcans dormants qui ont ressurgi des années après?
Ben, disons que les rébellions, d'abord le mobiste, étaient des forces politiques liées au fait que même si le premier ministre, c'est-à-dire au lendemain de l'assassinat du premier ministre Katanga, on avait tenté, à travers la mise en place du gouvernement Abdullah, il y avait une idée selon laquelle, probablement, le gouvernement Abdullah serait un gouvernement transitoire, et que ce gouvernement négocierait avec les Lumumbistes, qui avaient la majorité dans les deux chambres, pour régler la situation. Mais il s'est révélé, malheureusement, pour des raisons qu'il ne faut pas évoquer ici, que le chemin de la réconciliation, c'est-à-dire qui aurait permis au président Kassavubu et à l'ensemble des forces qui le soutenaient à se réconcilier avec les forces du MNC ou tout au moins la majorité qui était dans les deux chambres, a fait échouer l'affaire. Alors, du moment où les partisans de Lumumba ont quitté le pays pour aller créer le CNL à Brazzaville et quelques années plus tard reprendre le maquis avec Mulele, ensuite avec Tshimelo et Benyé à Kisangani et aboutir à ce gouvernement de Kizenga à Kisangani, bah, les rébellions congolaises, du moins les premières celles de Lumumba ou qui se réclamaient de Lumumba, n'ont été étriées que soit à partir de l'intervention belgo-américaine sur Stanleyville. Bien sûr, je ne minimise pas là les efforts qui ont été engagés par l'armée nationale congolaise en gestation, mais il faut reconnaître que le paquet a été mis par cette intervention des Américains et par la suite l'intervention multiple de ceux qui, avec le président Mobutu, l'ont aidé à lutter contre les mercenaires qui venaient du Kivu. Donc, la question des rébellions restait une question pendante jusqu'à ce que, bien sûr, le président Mobutu, en mettant sur pied tous les moyens nécessaires pour recréer ou sinon donner une sorte d'âme à ce qu'était la INC qui était devenue finalement les FAS, on a eu, même si toutes choses étaient intégrées par ailleurs, il y avait encore quelques problèmes par-ci par-là, mais on avait quand même un semblant de force armée qui était capable, même s'il n'y a pas eu de guerre, hein, à partir desquelles on pouvait évaluer la capacité de phase à avoir vaincu un ennemi extérieur, mais il y avait au moins un commandement, il y avait une formation des élites militaires congolaises dans les meilleures écoles militaires du monde, et cette structuration de l'armée jusqu'à la crise des années 70, avant que l'armée ne devienne un instrument du MPR, comme l'ensemble des forces, y compris les forces de renseignement dont parlait M. Sakoumbi tout à l'heure, on avait un service public de sécurité et de défense qui s'appelait l'ANC, qui était devenu par la suite les FAS, de même que le service de renseignement. Mais à partir des années 1970, à partir du moment où le président Mobutu se posait la question de pouvoir perpétuel, comment rester le président à vie du Zaïre, à ce moment-là, toutes les velléités, même tous les rapports objectifs qui lui donnaient la situation du pays, ont été considérés comme des menaces réelles, soit qu'on lui trompait sur ce qu'il fallait dire, ou bien que ses services, qui le servaient honorablement, étaient à tort ou à raison soupçonnés d'être soit à la solde de l'opposition, quand bien même il n'y avait pas une opposition visible contre le président Mobutu, et c'est petit à petit que le président Mobutu lui-même a démantelé l'armée, démantelé ses services de renseignement, même si jusque-là il avait encore gardé la main jusqu'à la dernière minute. Donc les rébellions, jusqu'à ce que surgissent les hommes de Laurent Désiré Kabila à Moba dans les années, si mes souvenirs sont exacts, 1983 ou sinon 1984, il n'y a pas eu jusque-là une rébellion que les forces armées congolaises, les FAS, n'aient pas pu maîtriser, y compris ces forces de renseignement. Qui connaît autant que faire se peut. D'ailleurs, il a été reconnu dans la fameuse phrase du professeur Gondoué que les cellules de renseignement congolais étaient probablement la seule force de l'administration publique qui était probablement la plus prompte, la plus organisée et qui faisait son boulot. Mais même là, il faut mettre un peu de bémol pour dire que on a fini par phagocyter ces forces en les mettant carrément non plus comme des forces publiques de renseignement et de sécurité au service de la République, y compris au service du chef de l'État, mais pour en faire carrément un service à la solde du chef de l'État, le président Mobutu, y compris l'armée, avec la création évidemment d'autres forces qui ont phagocyté l'armée, proprement dite, et etc. Donc on est resté un peu sur la fin, sur la question des rébellions, qui ont été, quand même, il faut le reconnaître, pour éviter la démagogie, qui ont été maîtrisées jusqu'à ce que, évidemment, le déclin des FAS aidant et le déclin du régime de Mobutu aidant, évidemment, la FDL, avec tout ce que nous connaissons de l'orchestration internationale, sont venus à bout de ce qui restait encore des forces qui soutiendraient le président Mobutu.
Merci, professeur. Que faut-il pour améliorer sur le plan de, que faut-il améliorer plutôt sur le plan de la défense et la sécurité? Cette question intéresse aussi les Congolais. Écoutons certains d'entre eux qui ont une fois de plus été interrogés par nos collègues du réseau CAPI dans les provinces du Nord Kivu, Équateur, provinces orientales et Sud Kivu.
Jean-Ferdinand Bitar Wakasigwa, toujours. Moi, je pense que le gouvernement doit déployer beaucoup de forces secteurs dans la mesure où, tant qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement, il faudrait qu'on renforce le mécanisme pour mettre fin au groupe d'armée des ordonnées et qu'il y ait une armée intégrée, une armée républicaine, ce que le professeur Oculation leur bien. Concrètement, il faudrait d'abord qu'on fasse un choix particulier pour que les FDLR rentrent chez eux et dans le calme, en ce que le grand lac soit dans la paix et que tous les groupes d'armée nationaux soient pleinement sur le mode démobilisé et après les forces majeures des années à être situées par l'armée régulière pour qu'il y ait la paix.
Jean-Louis Omar, c'est Mbandaka. Je pensais spontanément à la restructuration et au recyclage au niveau de ce secteur de sécurité, en recourant surtout aux anciens agents de ce secteur qui ont suivi des formations avancées dans ce domaine de la sécurité. Ça, c'est un. Deuxième élément, il faut également que le gouvernement arrive à employer un budget conséquent dans ce secteur en donnant des moyens financiers aux agents de sécurité en vue de filer et de collecter des informations sur la paix, sur la réconciliation et l'épanouissement de la société congolaise.
Pascal Bachombe, j'habite Kisangani. Il n'y a pas quatre chemins empruntés. Moi, je crois qu'il faut sanctionner, punir tous ces fauteurs à notre trouble. Il faudra qu'on puisse avoir une justice forte, une justice juste et une justice qui sait dire la loi et lire la loi.
Charlie Massimango, Mkrumanya, Goma. Nous sommes en train réellement de recommander à nos autorités de réellement prendre les responsabilités, surtout sur le plan sécuritaire. Nous avons bientôt fêté notre cinquantenaire. Il y a réellement la sécurité dans les différents coins. besoins de la ville. Prochainement, qu'ils essayent un peu de mettre tous les moyens, surtout encadrer bien le militaire. Parce qu'on suppose que quand un médecin n'est pas bien encadré d'office, il sera lui-même une armée, il peut juste se déguiser comme un voleur.
André Alain Atondo Liongo, je rappelle que vous êtes ancien chef des services de renseignement du Zaïre et ancien ambassadeur du Zaïre au Rwanda. Que faut-il pour améliorer le domaine de la défense et de la sécurité? Vous avez suivi certaines propositions de ces quelques Congolais interrogés par Radio Capi.
Bon, je pense d'abord qu'il faut laisser les experts faire leur travail en tout objectif, à l'abri de la pression de l'opinion. Pourquoi? Parce que nous devons avoir une philosophie de défense conforme à nos réalités. Et cette philosophie de défense ne peut provenir que d'une pensée stratégique de base à la suite d'une évaluation. Allez, on va dire, pour simplifier les choses, les amis d'hier ne sont plus les amis d'aujourd'hui, alors nous devons évaluer notre défense en fonction de cela. Ça c'est le 1. Le 2, il faut donner les moyens conséquents. Les moyens d'entretien, de formation de troupes, mais aussi les moyens de recherche. L'armée, c'est un instrument de recherche. Il doit évoluer. Il doit suivre les exigences de la défense aujourd'hui. Ce ne sont plus les exigences de la défense hier. Aujourd'hui, notre armée doit pouvoir, pour la défense dans son territoire, avoir son satellite, se moderniser. Il faut vraiment laisser les succès. Et malheureusement, aujourd'hui, les circonstances ne nous permettent pas. Et lorsque les spécialistes voient d'abord la modicité de notre budget et la part congrue qui est réservée à l'armée, eh bien, la conclusion est que cette armée-là ne vaut pas grand-chose. Mais c'est pour cela que nous devons faire un effort pour mobiliser notre budget, pour que nous tournions autour de 50 milliards, pour que l'armée ait un minimum de 5 milliards. Parce qu'une étude sommaire, c'est qu'aujourd'hui, s'il faut moderniser l'armée, bon, il faut d'abord à peu près 5 milliards de dollars de fonctionnement et 7 milliards de dollars par an pour l'adaptation conjoncturelle. Alors, 12 milliards au moins pendant 5 ans, où va-t-on les trouver? Donc, il faut vraiment que nous ayons conscience de la nécessité d'augmenter notre budget pour que l'armée et les instruments de défense, c'est-à-dire l'armée, la police, les services de renseignement, puissent vraiment remplir leur rôle en âme et conscience. Et pour que la nation soit en mesure de juger de leurs compétences. Parce qu'aujourd'hui, le manque de moyens de l'armée ne nous permet pas de juger de sa compétence.
Alors, que peut-on dire de l'armée congolaise de demain? Peut-on espérer, par rapport à toutes ces évaluations dont vous parlez, 12 milliards en 5 ans, que peut-on dire de cette future armée congolaise?
Non, il y a d'abord une chose, c'est que nous, les Congolais, nous sommes conscients de ce que nous représentons. Nous sommes conscients de la nécessité de nous défendre. Maintenant, il faudrait que la situation économique et politique puisse permettre à nos experts d'évaluer la situation, de présenter un budget conséquent que le gouvernement devra mettre à leur disposition. Il faudrait que l'armée soit débarrassée, si vous permettez l'expression, des vestiges des rébellions. Il faudrait que ce soit une armée vierge, des citoyens vierges, de jeunes gens qui considèrent l'armée comme une carrière honorable et non pas comme un instrument ou un moyen de se faire de l'argent.
Honorable Mohamed Boulé, il faut évaluer la situation actuelle pour redéfinir la vision sur le plan sécuritaire et donner les moyens, d'après André Alain Atondo. Quelles sont vos propositions pour améliorer la sécurité et la défense?
La proposition, comme l'a si bien dit M. Alain Atondo, j'ai apprécié en ce qui concerne le travail d'experts, parce que il faut cerner toutes les menaces possibles, du plus simple au plus dramatique pour notre pays. Si vous voyez aujourd'hui les zones de tension rester permanentes à l'est, mais c'est simple, c'est à cause des intérêts, notamment nos ressources qui sont pillées.
Et ceux qui exploitent ces rébellions, ces FDLR qui exploitent. Mais qui sont les acheteurs? Il n'y a pas d'usine de transformation ici. Donc l'évaluation de ces causes-là doit être la tâche quotidienne de nos services et de manière permanente. Et de leurs analyses, les conclusions qui sont destinées aux consommateurs doivent faire l'objet des décisions permanentes pour parer à toutes les éventualités possibles. Et à travers ça, il faut beaucoup de moyens.
Mais il y a aussi la réforme de l'armée, hein, à l'Assemblée nationale, ça semble traîner les pattes.
Ça. Oui, la réforme, normalement, vous avez raison. Et je crois que même si nous sommes à l'intercession, je me permets de vous dire que notre commission, nous nous sommes réunis en commission donc restreinte avec l'appui de certains, disons, partenaires pour réfléchir et proposer un chronogramme précis pour examiner toutes les matières liées à la réforme de l'armée. Tous les textes sont là, et pour la police et pour l'armée. Pour l'armée et pour la police, il reste bien entendu que nous poussions également à la prochaine session, nous avons déjà préparé un chronogramme de nos activités au niveau de la Commission Défense et Sécurité pour entamer aussi les volets de service, ou bien la communauté de renseignement. Et tout cela, la mise en place de ces réformes nécessite beaucoup de moyens. Parce qu'il faut rajeunir l'armée, il faut alors catégoriser, savoir combien d'éléments qui méritent de prendre leur retraite dignement, et une fois fait, également envisager le recrutement de manière progressive et qui a tenu compte de la représentativité pour ne pas contacter les uns et mécontenter les autres et créer des frustrations. Et en même temps, donc, relancer la formation à l'intérêt parce que l'expertise est là. Et l'armée du métier, laissez-moi vous dire, qu'on trouve toutes les spécialités parce que l'armée avait ses écoles. Ces écoles de formation, vous trouvez les maçons, vous trouvez les ingénieurs, vous trouvez les infirmiers.
Les génies militaires.
Les génies militaires qui ont fait des démonstrations ici par certains officiers bien formés. Je peux citer le colonel Ouyoupé, par exemple, et bien aussi un autre colonel ingénieur qui était décédé ici, qui ont fait la démonstration. Mais si pour l'armée, réaliser certains programmes, notamment en ce qui concerne la construction, la main d'œuvre est disponible. Et tout cela, ce n'est pas avec les budgets. Il faut, une fois que ces lois, c'est pourquoi nous allons nous défendre bec et ongles pour que ces lois-là, ces projets ou propositions de loi, passent impérativement et de manière prioritaire pendant cette session, et alors pour permettre au gouvernement de venir avec la loi de programmation pour demander des budgets supplémentaires et défendre pour que nous puissions voter ça et nous permettre de faire sa politique et pour avoir les moyens.
Professeur Moïla Chiembe, quelles sont vos propositions pour améliorer la sécurité et la défense? En un mot, en une minute, ce sera aussi votre conclusion.
Mais écoutez, vous connaissez bien mon petit bouquin sur le défi de l'armée républicaine qui existe. Et puisque je n'ai qu'une minute, je peux renvoyer à ce petit bouquin. L'idée centrale est que l'armée républicaine ne peut être qu'une armée de projection compte tenu de l'étendue du territoire, de la polyvalence de menaces. Alors du moment où on se met dans le contexte d'une armée de projection, il est tout le calcul de savoir, comme ça vient d'être dit, combien, quelle est la gabarit de cette armée, combien d'hommes et de femmes faut-il, quel est le type de formation dont ils ont besoin au regard de menaces, les problèmes de la condition militaire, le problème de l'équipement de l'armée, le problème de partenariat, avec qui, aujourd'hui, quelle est la puissance mondiale qui fait offre de sécurité, qui peut prendre la main du Congo. Le Congo a besoin d'une armée républicaine et n'en a pas les moyens. Parmi les puissances du monde qui comptent, vous connaissez mes propositions, j'ai toujours soutenu qu'il faut que le Congo ait le courage de faire des choix difficiles et de prendre la main des États-Unis comme une puissance
militaire
qui compte. Et on a déjà la Chine sur le plan économique, s'il le faut.
Merci professeur, permettez que je vous arrête à ce niveau-là, André Alain Tourne de conclusion. Un mot.
La question de la défense dépend aussi. L'avenir de la défense dépend aussi du dimensionnement de l'armée. Il faudrait que l'armée ait une dimension qui puisse assurer sa force de feu, sa mobilité,
sa capacité de projection.
Merci, honorable Boulet. Un mot pour conclure.
Mais en termes de production législative, pour cette session-ci, nous sommes décidés à proposer à notre bureau pour que tous les textes qui sont déjà réalisés par ma dépasse, en priorité en ce qui concerne la réforme de l'armée, de la police et des services, et permettre au gouvernement de les appliquer.
Merci, cette émission est terminée. Merci à tous nos collègues du réseau CAPI qui ont contribué à la réussite de cette émission. Bon suite au programme sur Radio CAPI.